Et oui, c'est la bande originale, une heure de haine, une heure de jalousie, de Cuba, de Villeni, une heure spéciale famille. Au menu, David et Stéphane Funkinos, Olivier Barou, Jean-Paul Rouve, Charlotte Turquem, Isabelle Carré, Lynn Renaud, Danny Boone et la bande au très très grand complet. La bande originale spéciale famille, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Ça veut dire que vous compreniez ce qu'il chantait puisque vous étiez prof d'anglais.
J'étais prof d'anglais à Sarcelles. Donc j'étais au cœur de l'action. Je me prenais tellement pour Michel Pfeiffer dans Esprit Rebelle. Voilà, c'était Coolio revisitant Stevie Wonder et j'avais fait une chorale avec les profs. Et je leur avais fait apprendre ça, oui.
Ah, trop bien.
Oui, oui, oui.
Bien. Donc, et vous avez exercé pendant combien de temps?
Pendant 3 ans.
À la fin d'un choral.
Ça s'est arrêté.
Ça se trouve sur YouTube, je crois.
Non, on ne peut pas le voir.
Mais en parallèle, déjà, l'intérêt pour le cinéma, pour...
Oui, j'avais fait, en fait, des cours de comédie. J'avais été au cours Florent, j'avais été au cours de Nils Arestrup, avec l'école du passage. Mais très, très vite, je me suis rendu compte que je ne serais pas un jeune premier. Et que c'était mieux d'être derrière, en fait. Et c'est vrai que...
Vous avez commencé même stagiaire sur les tournages, c'est ça?
Oui, oui, j'étais stagiaire sur un tournage au Québec il y a très très longtemps. Et finalement, j'étais aussi assistant attaché de presse, j'ai bossé à Cannes.
Ouais.
Et bon, rattrapé par la morale et les parents, il faut un vrai métier. Donc j'ai appris, j'ai passé mon CAPES et je suis devenu prof d'anglais.
C'est l'aîné quoi, l'aîné doit aussi
montrer l'exemple.
Mmh. Et on vous appelait Rain Man?
Oui, mais ça c'était une petite blague. Parce
toujours d'ailleurs.
Non. Parce que je retenais tous les noms, enfin surtout les génériques de films, et j'ai jamais retenu une formule de maths, hein, je vous rassure. Hein. Mais par contre, voilà, pourquoi je me souvenais des noms des acteurs.
Hypermnésie,
mais
dans un
pas
domaine.
À la Méline Othon.
Voilà, d'accord.
Bonjour, je vous ai vu, vous aviez une robe rouge en le 3 juillet 1932. J'en suis pas à ce point-là.
Mais ça, c'est possible avec Albert.
Mais c'est super utile aussi pour votre métier aujourd'hui.
Certains s'en souviennent.
Bien sûr. Non, mais ce qui était formidable, c'est que jamais j'aurais pensé que ça pouvait être un métier déjà de choisir des acteurs, puisque ensuite je suis devenu directeur de casting et je me suis dit, ah bah oui, en fait, voilà, il y a une compétence qui peut être exercée.
Mais qu'est-ce qu'il faut justement pour exercer ce métier? Parce que je trouve ça très difficile, tout d'un coup, de voir quelqu'un lors des essais. On voit des vidéos sur Internet avec des essais de jeunes comédiens et parfois on se dit, mais moi je suis à 10 000 lieues d'imaginer que cette personne pourrait devenir quelqu'un. Qu'est-ce que vous voyez?
D'abord, je pense que
c'est
le fait d'avoir enseigné,
ouais.
C'est très lié pour moi. C'est-à-dire que la pédagogie, elle est exactement la même. Elle est au même niveau. J'ai compris après qu'il y avait un lien en finalement. Et après, c'est vraiment une histoire de sensibilité. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très dur de dire à des comédiens ou des comédiennes, voilà, elles rentrent dans une pièce et c'est elle ou c'est lui. C'est très étrange. Mais c'est aussi, il faut que ce soit lié au projet. C'est-à-dire que c'est jamais... moi, j'étais pas comme Dominique Besnéard qui pouvait arrêter des gens dans la rue sans avoir un projet. C'est quand on...
professionnel.
Non, Nagui, professionnel.
Bien sûr. Bonjour, chez mon cousin.
Vous dites pas de bêtises, j'en juge d'ailleurs.
J'ai une histoire très, très rapide sur Dominique Besnéard. Il arrête un petit garçon de 5 ans dans la rue quand il fait le casting du jouet. Les parents refusent qu'il fasse le film. Et 25 ans après, il fait le casting de Anne Fontaine... nettoyage à sec, ouais. Et il est avec Anne Fontaine, ils ont du mal à trouver le jeune homme un peu ambigu du film. Il arrête un mec dans la rue, c'est Stanislas Mérard, et il lui dit, vous m'avez arrêté quand j'avais 5 ans.
C'est incroyable.
Voilà. Ben ça, c'est
arrêtez de m'arrêter.
C'est un stalker.
Voilà, non mais c'est des choses comme ça, il faut être obsédé par un rôle.
Et vous avez quoi? C'est l'instinct qui vous parle à un moment quand vous devez choisir entre par exemple deux comédiens qui pourraient être les bons pour incarner le personnage?
Ben après, ce qu'on a fait aussi pour Jalouse, on parle beaucoup. Ce qui nous excite, c'est d'abord des gens qui n'ont pas travaillé ensemble.
Ouais.
Parce que c'est vrai que c'est agréable. Et là, Karine, elle n'avait pas beaucoup travaillé avec, à part Thibaut de Montalembert.
On va reparler de ces années de direction de casting, des années 90. David, vous écoutiez Les Cure. Quand il y a le rouge, c'est ouvert, Stéphane.
Voilà. Vous savez ce que ça a coûté à Karine Viard?
Oui, mais je n'ai pas le même vocabulaire que Karine.
En dessus balance, c'est moche. En écoutant Cure, d'ailleurs, vous vous revoyez à quel... à quelle étape de votre vie, dans une chambre d'étudiant,
ça,
dans...
c'est extrait de l'album Désintégration, donc ça donne un peu l'ambiance. J'étais un adolescent gothique au bout du rouleau dépressif. Voilà comment on devient écrivain, quoi.
Ah oui,
j'avais vraiment, je détestais le soleil, j'ai eu ma période vraiment curiste, vraiment à fond, quoi.
Curiste en peignoir avec des claquettes.
C'est ça.
Mais avec les cheveux frisés, c'était compliqué.
C'était avant que j'écoute les chansons d'Alison Wheeler.
Non. Et il y a un événement qui fait quand même basculer votre vie, qui fait que vous êtes là aujourd'hui.
À l'âge de 16 ans, j'étais gravement malade, j'ai passé des mois à l'hôpital, donc j'écoutais pas ça quand même, hein, parce que là ça aurait été une double peine. Mais ça a changé ma vie, parce que quand on est dans la proximité de la mort, après je me suis mis à lire, à écrire, à faire de la musique, à m'ouvrir au monde culturel.
Quoi, il y a eu une sorte de besoin tout d'un coup de... Parce que là, à la limite, on pourrait se dire, si on est passé pas loin de la mort, on va avoir envie de vivre plus intensément, de façon un peu plus folle. Et vous, c'est la lecture, c'est l'écriture, ça passe aussi par là.
Pardon, c'est pas le cas de tout le monde, vous allez dire pour vous, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde
ne réagit
pas.
Non, mais vraiment, moi j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital, j'ai vraiment une expérience de proximité avec la mort, et c'est vrai que nous, Stéphane et moi, on n'est pas du tout issus d'un milieu culturel.
Ouais.
Mais moi, chacun à notre façon, finalement, on s'est aussi sauvé par la culture.
Et c'est quoi votre bouquin, premier bouquin, après cette période-là, qui vous a donné l'envie de dévorer?
Voilà, Martine.
Martine, ok.
J'ai lu beaucoup la littérature russe.
Ouais.
J'ai lu tout Dostoïevski à cette époque-là.
Qui ça? Vraiment,
j'étais boulimique de... Qu'est-ce que tu allais dire?
Il a dit qui ça? C'est là où vous êtes complémentaires.
On est très complémentaires.
L'un lit Dostoïevski, l'autre demande qui.
Mon frère, il était à fond sur Paul Auster, donc la littérature américaine, moi la littérature russe.
C'est bien, vous complétez. Voilà,
exactement.
Ah, ça, c'est formidable.
C'est toujours ce duo.
On se donne rendez-vous à mi-chemin.
Voilà, sans savoir pourquoi ni comment. C'est ça qui est bien.
France Inter, la bande originale, le best-of.
La bombe humaine, tu la tiens dans ta main.
On passe de Bogota à la bombe humaine, je suis pas sûr.
Il y a un détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin.
Elles sont vachement bien les paroles, hein.
La fin.
Téléphone, la bombe humaine, on est en 78-19.
C'est ça, et vous écrivez votre première pièce, Le bonbon magique. Et vous cherchez à faire marcher cette pièce, parce que au départ c'est pas encore ça, et vous vous êtes dit voilà, on va contacter un certain nombre de journalistes qui ont vraiment un pied dans la place et qui peuvent booster un petit peu ce spectacle, et c'est comme ça que vous rencontrez un certain Coluche.
Exactement, il avait une émission de radio qui cartonnait, c'était une star, hein. Il était sur Europe à 15h, et moi dans ma liste il y avait Coluche. Et donc je débarque dans
le studio. C'est de cette émission de radio qu'il a lancé les Restos du Cœur, d'ailleurs.
Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça.
Ah oui.
Ah, j'avais oublié. Et donc, je me planque à Europe, parce qu'à l'époque, on pouvait rentrer dans les radios comme on voulait. Et surtout, je n'avais aucune conscience.
Là aussi, apparemment, il y a des gens qui viennent d'Amiens, c'est pour vous dire. Hein, c'est porte ouverte, hein, aujourd'hui.
Et puis, on en réveille un, là.
Et Europe, en ce moment, ils essayent de les empêcher de sortir, surtout les gens.
C'est pas sport.
Ça les fait pas tellement marrer, hein, d'ailleurs, je vois. Hein.
Et donc vous rentrez, vous êtes dans le public de l'émission de Coluche.
Voilà, j'ai aucune conscience de ce qu'est un direct, évidemment. Et donc je pousse la porte du studio et je rentre.
Mais Coluche était déjà une star à ce moment-là.
C'est une méga star. Et alors moi, en plus, pour la petite histoire, c'est ridicule. Pour lui faire plaisir, ou lui rendre hommage, ou l'attendrir, je sais pas quoi.
Tu mets une salopette.
Je mets une salopette.
Non.
Oh là 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 là. Comme je revois les photos.
Mais comment on a dû lui faire 25 fois la vanne.
25 fois, puis surtout, avec ma petite tête, parce que moi j'étais très rebelle pour le 16e arrondissement. Mais sinon, rien, même pour la place de la République, j'étais pas rebelle du tout. Et donc j'ai une espèce de petite voix comme ça, toute douce. Et donc je rentre dans le studio. Imaginez que quelqu'un débarque là, vous dire. Donc il me dit, t'es qui toi, etc.
Oui, parce que vous arrivez en retard.
C'est-à-dire que je rentre pendant l'émission.
Voilà, c'est ça.
Parce que je me dis...
C'est ce que j'appelle en retard, excusez-moi. Ah oui. Donc vous arrivez au milieu de l'émission.
Non, pour être remarqué.
Mais oui, parce que il fallait que ça commence l'émission. Il ne fallait pas qu'il m'arrête. Donc je rentre. Et donc tout de suite, comme j'avais vachement le trac et j'étais vachement intimidée, il me dit, mais t'es qui toi? Et moi je dis, avec une petite voix, je dis, oui bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte de Turquem et j'ai besoin qu'on fasse de la pub pour mon spectacle. Alors évidemment, il attend même pas la fin de la phrase. Il me dit, tu t'appelles comment? Il n'y a que ça qui l'amusait. Je lui dis, Anne-Charlotte de Turquem. Il me dit, mais depuis quand les aristos ont besoin des prolos? Alors j'ai dit, ben, quand les prolos, ils ont des émissions de télé qui cartonnent, dès que les aristos, ils rament. Et voilà.
Et là, il propose comme pseudo Charlotte Kame.
Exactement. Il me dit, ah, ma poule, tu vas jamais y arriver avec un prénom, avec un nom pareil. Anne-Charlotte de Turckheim, ça va quand même te limiter dans
la vie. Il a dit la même chose à Anne-Claire de Turckheim, qui il lui a proposé de changer de nom aussi en Karkheim, ça a mieux marché.
Non, il m'a proposé, ça fait Charlotte de Turckheim. Et en fait, j'ai changé de nom, parce qu'évidemment, moi, c'était mon dieu vivant. Tout ce qu'il me disait, je le faisais. Et Charlotte Kame, sauf que Charlotte Kame, ça me paraissait un prénom ridicule.
Ouais, sauf qu'il a travaillé pour elle.
Ouais, vous avez travaillé ensemble.
Ah ben après, il m'a écrit un spectacle qu'il a produit, qu'il a mis en scène.
Oui, non, mais c'est pas juste une vanne dans un studio, c'est-à-dire qu'il a.
Ah non, mais après
intrigué, il a été intrigué par le personnage, ouais, c'est ça.
Ah oui, il a été. Ah non, après pour moi, c'était le Père Noël. Et quand il m'a dit qu'il allait m'écrire un spectacle, je me souviens, je suis partie en courant, je suis partie. C'est-à-dire que c'était un tel choc que il n'a pas fini sa phrase non plus, et je suis partie. Et je suis revenue 3 mois après. Et j'ai dit, je suis d'accord.
Mais vous aviez peur?
Bah attends, mais Coluche, pour une pour moi, c'était... je sais pas qui ça peut... Imagine David Bowie qui vous dit... il est plus là.
Ça va être difficile.
Je comprends que vous soyez impressionné, mais de là à être tétanisé, ne pas tétanisé. Répondre et ne rien dire pendant 3 mois. Alors ok, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, mais quand même, 3 mois, bah, c'est
j'avais,
long.
J'avais 25, j'étais jeune. J'avais, ce mec, il était... Et puis, en plus
mais
de
vous
ça,
étiez jeune, vous n'étiez pas bête, vous saviez bien que c'était une opportunité dingue que Coluche...
C'est pour ça que j'y suis retourné. Mais 3 mois. Quelquefois, c'est quand on a trop d'admiration pour les gens. Moi, j'étais une petite comédienne qui démarrait. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, je vais y aller. Et bien sûr, mais ça a été si facile pour vous quand vous aviez 20 ans. Non, je pense qu'on est tous intimidés. Et puis on a
personne ne m'a aidé, mademoiselle. D'accord. Personne. Pas moi qui... de Coluche, pas de personne.
Okay. Mais moi qui m'a aidé, moi Coluche. Tout seul. Mais m'a dit, c'est moi qui t'ai le cherché. Oh. Attends, c'est comme moi, personne m'a aidé si ce n'est moi-même. Je pense que à cette table, on a tous en commun des dissidents par rapport à notre milieu d'origine. Je dis pas que on n'aime pas notre milieu d'origine. Je dis qu'à un moment, il a fallu s'extraire de ce milieu.
On n'est pas des enfants de la balle, oui, c'est ça.
Au-delà, quel que soit ton milieu social, en fait.
Quand t'es fille d'artiste ou fils d'artiste, c'est...
Je pense que tu dois avoir un obstacle, c'est-à-dire te dire...
Moi, j'ai
le
des
complexe,
copains qui sont artistes, et leurs enfants, il a décidé d'être comptable. Ça, c'est de la dissidence aussi.
D'accord, mais prenez Julia. Votre fille, elle a décidé d'être comédienne.
Non, mais je dis pas qu'on est tous des dissidents. Je dis qu'en tout cas, moi, je le suis.
D'accord.
Un jour, Jacques Martin, il m'a dit un truc horrible. Il m'a fait venir dans son bureau... Porte fermée, je commençais à travailler avec Coluche, et il m'a dit « Vous trahissez votre classe, c'est pas bien ce que vous faites. » J'ai dit « Bon, tu t'occupes de ton cul. » Mais je me souviens très très bien de ce truc-là.
Vous l'avez rencontré à Bogota.
J'ai rencontré à Bogota. Voilà, donc tout ça pour dire que
violent,
oui,
c'est violent.
Moi j'étais vraiment très cucu la praline. Donc Coluche qui me dit qu'il s'intéresse à moi et qui trouve que je suis rigolote et qu'il a envie de m'écrire un spectacle, effectivement, je mets 3 mois à me décider.
On revient à notre ch'ti de famille. On va
revenir en musique sur une partie de vos parcours, les amis. On commence au milieu des années 60. Your lips and mine, two sips of wine,
memories are made of this. Le Rat Pack. Then at the wedding bells,
the one house where lovers dwell. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça, Aline
Renaud? Sammy Davis, Frank Sinatra et Dean Martin. Le Rat Pack s'est créé à ce moment-là, et à Vegas.
Et vous étiez où à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faisiez?
On était tous à peu près là. Sinatra chantait au Sands, Dean Martin chantait au Riviera, moi je chantais aux Dunes, tout ça était très près. Et après notre deuxième spectacle, on avait tous 2 spectacles par soir. On se retrouvait chez le patron, Sinatra, c'est-à-dire dans le lounge du Sands Hotel, où il n'y avait plus de public, on était qu'entre nous. Et c'est là que se créait le Rat Pack, parce qu'ils chantaient les uns après les autres, comme ça, se mettaient en boîte. Et puis c'est comme ça que ça a démarré. Et ils ont...
C'est fou, vous avez tous connu.
On a vu naître le Rat Pack complètement. Oui.
Vous avez tous connu. En 63, vous venez de triompher au Casino de Paris. Vous vous envolez pour Las Vegas. Vous venez de l'évoquer. Et je crois que la France, au bout d'un certain temps, vous manquait.
Au début, oui, beaucoup.
Ouais.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Et à tel point que vous aviez, je crois, appris à votre mère...
Ah oui, j'avais appris à mon père.
Parce qu'on parlait du perroquet de la maman de Danny Boone.
J'avais la mère des Indes et je lui avais appris à siffler la Marseillaise. Et donc, et, je ne sais pas siffler, mais il faisait toujours une fausse note. Alors, il faisait... alors, je vais la chanter là. Ta 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 ta. Et moi, je faisais non, ta ta ta. Et alors, au bout d'un certain temps, le maire faisait ta 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 ta. Non. Et alors, je l'ai ramené à Paris.
Je l'ai fait empailler.
Je l'ai ramené à Paris et sur le tapis roulant, donc sa cage était couverte et à l'intérieur on met des petits sacs en papier, ils vont dans le sac à papier et sur le tapis roulant on entendait siffler la Marseillaise. C'était mon maire des Indes, je l'ai eu un moment puis... Il est parti dans la forêt, je ne l'ai jamais retrouvé.
Oui. Il a retrouvé sa liberté en tout cas. Et vous, Dany, vous écoutiez ça à l'époque.
Sacré géranium, tu sens bon la terre, les toits, l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles.
Zika de garde, sacré géranium.
Alors j'écoutais pas ça au moment où c'est sorti, mais j'étais la génération suivante en fait.
Oui, ça n'empêche pas. Non,
enfin, je veux dire, il était, et j'adore Dick Hanegaard. J'ai eu la chance de le rencontrer, et on a même enregistré une chanson ensemble. Et il est très poétique, Dick Hanegaard. Il a une voix comme ça. Un peu. Il dit, on va faire une chanson ensemble en montgolfière. Parce qu'il a voulu enregistrer en montgolfière parce qu'il dit l'air est pur là-haut et le son c'est meilleur. Donc on est parti en montgolfière à 5h du mat. On s'est envolé en montgolfière fin août et voilà au sud de Toulouse. C'était un truc magnifique et il y avait la prise de son tout ça. Il y avait et en fait il s'est pas rendu compte. Il n'avait pas réfléchi. C'est que pour en fait on commence à enregistrer puis le mec le mettait les brûleurs.
Oh là.
Et il dit non, qu'est-ce que tu fais? Il dit oui, mais si je mets pas les brûleurs, on va descendre. Donc c'est très drôle. Donc on montait très haut pour on commençait à geler, à avoir moins d'oxygène pour chanter et puis pendant la chanson on descendait tout doucement. Mais c'était et voilà. Et c'est Dick Hanegaard quoi. Je l'adore.
Non, 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 ne me mentez pas. Vous êtes bien sur France Inter, mais vous serez encore mieux. Après Alba de la Simone, à midi, on m'a dit.
Tu es un leurre, une illusion d'optique. Juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon? J'ai un avion à la maison, à réaction. Bas les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles. Descends de ta licorne rose. Tu vas te casser quelque chose sur moi. Seul sur le tard et sur le tard, à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards, à protéger sous une armure mon petit cœur pur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille, de toute façon tu repartirais en citrouille. Et en chaussons. dit, j'aurais changé d'avis. Faut voir. À midi, reviens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Pas ce soir.
C'était à midi, on m'a dit, par Alba de la Simone. Chanter, c'est bien. Danser, c'est chouette. Eh bien, riez maintenant avec Alison Wheeler.
Merci, merci. Bonjour à tous. Bon, je vais pas super bien. Je sais pas. C'est pas la dinguerie, Nagui. Je sais pas, chaque année, au mois de novembre, je suis pas au top. J'ai les chaussettes dans le moral. J'aime pas cette saison. Je comprends rien à l'heure d'hiver. J'ai déjà bouffé tout mon calendrier de l'avant. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très sérieux. Un sujet qui nous touche tous et toutes et qui n'est pas Harvey Weinstein. Sortez vos mouchoirs, cette histoire est émouvante. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Taratata. Ok. Je me baladais, port de Champéret. J'avais pas de manteau sur moi, c'est vrai. J'aurais dû méfier de cet inconnu qui s'est approché, m'a éternué dessus. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai senti ma gorge qui me grattait. Je crois que j'ai attrapé un truc bisquide. J'ai la voix de Garou et la gueule de Régine. Putain de rhume. Un vrai rhume d'enculé. Celui qui vous embrume et vous prend tout le dé. Oh, merci. Je suis abstinente, je peux plus respirer. Mon mec me parle de cul, moi je parle du nez. Je me sens si faible et si sale. J'aimerais retrouver ma virginité nasale. J'ai perdu tout sexe appeal. Avec le Vic sous le nez, on dirait Hitler en chlorophylle. Comment mon corps produit-il autant de mucus?
Oh,
Hidalgo, c'est ta faute. Les bouchons d'Ambessinus, putain de rhume. Un vrai rhume d'enculé. France Inter, je prends des médocs vénères. Ça me donne des Je suis addict, j'sniffe des suppos à la menthe. Je suis comme dans un Virginie des portes. J'ai plus de force ni de réflexe. Je perds le contrôle en mode Verdon Fervex. Oh, c'est le putain de rue. Je crois que je suis décédée. Merci. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été là pour moi ces derniers jours. Dolly Rhum, Nurofen, Nurofen Plage, Doctissimo, la filmographie de Haneke, les laboratoires Boiron, le L52, Philippe au généraliste. Je t'aime. Putain de rhum, putain de rhum. France Inter.
originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Voici la bande originale d'Olivier Barou et de Jean-Paul Rouve qui sont nos invités jusqu'à midi et demi dans les années 89-91. Jean-Paul, vous écoutiez Georges Brassens.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
Et là, c'est la rencontre avec les Robinson. Là.
Ben oui, d'abord, c'est la rencontre avec Isabelle Nanty au cours Florent.
Voilà, qui était notre prof. À PEF et à moi. C'est comme ça qu'on rencontre Isabelle, prof de première année.
Ouais.
Et puis après, par l'intermédiaire de PEF, je rencontre Marina, Maurice et ensuite Pascal et Élise.
Et pourquoi avec... Brassens, pardon ?
Bah, pour le thème de la chanson, les copains d'abord, parce que c'est les Robins.
D'accord.
Et puis c'est vrai que c'est une période où j'écoute beaucoup Brassens. Et j'écoute Brassens et je l'écoute aussi beaucoup dans les interviews.
Ouais.
J'écoute beaucoup d'interviews de Brassens. Et c'est le seul mec, je trouve, quand t'écoutes toutes ces interviews, qui ne dit jamais de conneries. Voilà.
J'ai il dit pas toujours qu'il peut se tromper.
Il dit, c'est toujours tellement humaniste, c'est toujours intéressant ce qu'il dit. Jamais je me suis pris à me dire, oh non, là, quand même, t'exagères. Alors que d'autres artistes que j'adore, où je trouve des fois ses limites, et lui c'est, j'aurais tellement aimé connaître ce mec.
Et dans ces années-là, vous êtes à Paris, et pour manger, en fait,
oui.
Vous faites équipe avec PEF, je crois,
oui.
Sur le parvis de la Défense.
On fait Homme Sandwich avec PEF sur le parvis de la Défense.
Ça devait être magique.
Bah ouais, on
les
était
deux,
en hiver, au moment de Noël, il faisait un vent de gueux.
Mais je pense surtout que les panneaux que portaient.
C'était pour le salon des antiquaires, je me souviens.
C'était pas Maurice qui portait.
Non,
Maurice n'aurait pas pu porter
le panneau. Je vois pas le panneau.
C'est ça. Voilà. Mais PEF, il devait se prendre les pieds dedans ou tomber.
Il y avait du vent, le panneau, il s'envolait et tout. C'était. Mais on se marrait bien, c'est une bonne époque.
Et puis vous donniez des cours particuliers de maths, je crois.
Et je donnais des cours de maths aussi. J'habitais pas loin de la maison de la radio. J'avais une chambre de bonne ici, avenue de Versailles.
Parce que vous êtes bon en maths ?
Mais non. C'est pas le problème, je vois pas le rapport, monsieur. Il était en seconde, l'élève.
C'est génial.
Et je lui donnais des cours de maths. Et donc il arrivait, il me disait, bah voilà, je dois travailler là-dessus aujourd'hui. Donc je lisais le truc, et 9 fois sur 10, je ne comprenais pas. Et donc je lui disais, ok, je vais t'expliquer. Pour comprendre ça, il faut d'abord revenir en arrière. Et donc, hop, j'allais leçon en arrière jusqu'à un truc que je savais faire un peu. Et j'ai fait
honteux.
Ça pendant un an.
C'est honteux.
C'est escroquerie. Ouais, mais enfin, il fallait bien vivre.
Hein. Ah, il faut bien vivre, monsieur.
Et votre premier téléfilm, ça intervient au bout des 3 premières années, je crois, des cours Florent.
Ouais.
Et vous vous retrouvez avec quand même Marina Golovin.
Oui, exactement. À Lille, c'était un téléfilm. Et ma première, j'avais jamais tourné de ma vie. Donc, t'imagines, t'es stressé. Et ma première scène, jouer son fiancé. Et on était sur un canapé et je devais essayer de l'embrasser et lui mettre la main sur le sein. Mais t'imagines, et elle me mettait une claque. Et mes premières scènes, mais c'est horrible. Tu te dis, mais je vais faire un autre métier, t'as envie de rentrer sous terre.
Et pourtant, vous l'avez fait.
Et pourtant, je l'ai. Ah bah, bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais on a fait plusieurs prises et tout.
C'est dommage.
Non, j'étais stressé. Hein.
Olivier Barou, à ce moment-là, vous écoutiez vous Nirvana.
Ouais,
je suis désolé. Ouais, toi, ouais, Olivier Barou, yes. Olivier Barou sur WFM à ce moment-là, surtout,
non ? Oui, oui, WFM 91, et c'est là que j'ai rencontré le Baron Noir. Et c'est là que j'ai rencontré Cad. Et...
Qui était beaucoup plus maigre à l'époque. Hein.
Oh là 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 là. Baron maigre, on l'appelait.
Vous faisiez le 6-9, et en fait, Cad faisait la tranche qui suivait.
Voilà. Et on se passait l'antenne tous les matins, et ça a commencé par une minute de passation, puis 10 minutes, puis une demi-heure, et puis après, Bruno Delporte nous a dit.
C'est pas des années où tu y étais aussi, Daniel ?
Non, moi, 97.
Oui, on était partis, on s'est pas croisés, Daniel.
Vous êtes évité même, carrément.
Ouais.
Et donc, la passation d'antenne.
Ouais, on va donner une émission à la fin, Bruno. On nous a dit on va vous réunir et puis on a fait le 6-9 pendant 5 ans sur WFM à la radio et en public comme ici. Voilà, c'est une belle et grande aventure.
Et ça c'est la rencontre, vraiment.
Ouais, la rencontre, bah oui, parce qu'après ça nous a amené à la télévision avec Jean-Luc Delarue, au théâtre et puis sur Comédie, et puis Comédie Dominique Farrugia et puis Kia Tupemela Rose et puis la porte d'entrée vers le cinéma. Donc ouais, c'est une rencontre très importante.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes vraiment très très bien ici dans la bande originale, mais je sens que vous serez encore mieux après Hurt You by The Weeknd.
Now I know relationships my enemy, so stay away from me, I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet, Cause you're upset with me. I'm wanting you. Cause all the nights you slept alone, drying your arms. And all the nights you thought about taking your life. Cause if it's love you want again, don't waste your time. But if you call me up, I'm fucking you on sight. I don't wanna hurt you. Ooh, I don't wanna hurt you.
The Weeknd dans la bande originale. Le Weeknd, eh ben tiens, voilà un bon moment pour réécouter Tanguy Pastureau. Tanguy, mon petit Tanguy, la perte de cheveux a toujours été un problème pour les hommes.
Oui, sauf pour vous, Daniel.
C'est vrai.
Sauf pour vous, Daniel, à qui cela donne un côté mature et rassurant.
Ah,
on a envie de parler immobilier avec vous en se roulant en boule contre votre corps chaud. La calvitie, vous la compensez par la pousse en parallèle d'une barbe, de plus en plus fournie au fur et à mesure que dessus, vous perdez en volume. Si tout le monde faisait ça, François Langlais, ce serait le père Fouras après ingestion de stéroïdes russes. Alors bien sûr, on peut être chauve et sexy, les exemples ne manquent pas. Bruce Willis, Vin Diesel, Gérard Collomb. Mais de tout temps, le mâle a cherché à garder ses cheveux, symbole de fougue, de puissance et malheureusement de catogan pour Francis Lalanne. Moi-même, je vois mes cheveux partir au même rythme quotidien que les Libyens partent de Libye ou que les gens de gauche quittent le PS. Et je pleure en me remémorant les jours de gloire au collège lorsque je pouvais souffler sur cette grosse mèche qui me tombait dans les yeux et que les filles disaient « Pastureau, il est trop bon, on dirait Pierre Cosso dans la boum ». En 40 ans, je vais réussir à passer niveau capillaire de Pierre Cosso à Patrick Bosso. Mais tout ça, c'est fini, car la recherche avance. D'ici 10 ans, on aura tous la touffe de Polnareff et on pourra tourner dans des pubs CTLM pour se faire du blé. En effet, il y a quelques jours, des chercheurs japonais ont pris des souris. En science, on fait ça parce que c'est moins risqué que de faire des tests sur des ours ou Joe Star. Ils leur ont inoculé des follicules et une semaine plus tard, les souris avaient plein de cheveux. On serait cru dans une compète de surf à Biarritz. Il y en a deux qui aujourd'hui porte une dent de requin en pendentif. Ils ont réussi à faire pousser 5000 cheveux d'un coup, là où aujourd'hui on en greffe 50 fois moins, qui après sont tout mous. Hein, Michel Fugain par exemple, on a l'impression qu'un chirurgien belge lui a greffé des frites. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression d'être chez Léon de Bruxelles à attendre mes moules. Mais là, miracle, les gonzes ont pris des souris, des produits, des fioles, ont poussé leur cri de guerre, nous les types, c'est notre kiff, et paf, 7 jours plus tard, les rongeurs faisaient la queue chez Camille Alban. Donc là, on se dit purée, moi aussi j'ai envie d'avoir la tête de Michael Jackson quand il était black, à 7 ans et demi, avec une coupe toute ronde qui fait ressembler à un Bill Bokeh. Hein, Daniel, vous, avec votre expérience de la vie, plus des cheveux, mais vous seriez une machine à tomber les profs de français qui écoutent France Inter, le Patrick Juvet, poivre et sel de la gauche molle.
Mais Tanguy, quel est le produit que ces chercheurs nippons ont précisément inoculé aux rongeurs?
Eh bien, Leïla, ça vous intéresse? Ils leur ont injecté du déméthylpolyxyloxane. Hein, ce qui est super à mettre dans des souris, mais encore plus sur un plateau de Scrabble, puisque ça signifie que vous avez gagné et que vous pouvez faire quelque chose de moins chiant. Or, le diméthyl machin est utilisé par les fast-food, ces restos où on paye seulement 10 euros pour s'empoisonner, ce qui est intéressant vu le prix du cyanure. Afin de cuisiner les frites, un McDonald's par exemple en met dans son huile de cuisson, car c'est un anti-moussant. Hein, ça évite que l'huile brûlante gicle sur les employés, ce qui les défigurerait, mais pire, les pousserait à prendre 10 jours d'ITT, et après il faut refaire le planning, enfin c'est une galère. Même les gonzes qui pratiquent le SM ne se jettent pas d'huile chaude à la tronche. Les humains ont toujours détesté ça. Quand au Moyen-Âge, des types lâchaient depuis le rempart du château de l'huile bouillante sur leurs assaillants, ceux-ci disaient, mais enfin, aïe, ouille, arrêtez, on peut quand même s'entretuer en restant au sec. Le seul souci, c'est que maintenant, tous les chauves vont aller chez McDo en se disant, plus je vais bouffer de frites, plus je vais avoir de cheveux. Dans 50 menus best-of, je suis Brigitte Macron. Et qui vont juste, en fait, grossir. Parce que malheureusement, dans les frites à McDo, il y a du 10 000 trucs, là, voilà. Ça, c'est super, mais ils mettent aussi des patates, hein, ce qui ne sert à rien, car la patate ne fait pas pousser les cheveux. Sinon, Danny Boone, qui est ch'ti et carbure à la patate depuis l'âge de 27 mois avant sa naissance, aurait les cheveux de Klaus Meine, le chanteur du groupe Scorpion en 84. Alors, à noter que le diméthylbidule est également utilisé dans la fabrication de la colle industrielle. Hein, donc, c'est aussi rassurant d'en trouver sur ses frites que de passer la soirée dans un donjon sombre quand au mur est accroché un martinet à clous et qu'on entend le pas lourd de Maître Roberto, dit le prédateur, se rapprocher de la pièce où l'on attend en slip. Si vous mangez 3 fois au fast-food par mois, vous êtes tellement chargé en produits chimiques qu'Akourou, quand il vous voit, il vous colle sur une rampe de lancement et vous allume le cul au briquet pensant que vous allez décoller. Les chauves ont donc 3 choix. 1. S'assumer en tant que tel, hein, car on peut être chauve et sexy. Jason Statham, Marie Roselmack, Alain Juppé. 3. Se jeter dans le bac à frites du McDo en hurlant banzai. 3. Attendre, hein, parce que ces couillons de chercheurs nippons n'ont réussi à faire pousser des cheveux qu'à des souris, hein, ce qui est inutile puisque les souris n'ont pas de peigne. Pour les humains, il faudra attendre 10 ans, disent-ils. Pourquoi 10 ans, soit le temps pour vous, Daniel, d'avoir la barbe d'un vieux druide terminé à la gnôle de fougère. Et pour moi, eh ben, ça va se jouer à un cheveu.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Évoquons la bande originale de votre vie, Isabelle Carré, puisque dans les années 86-87, on reste dans le sexe, mais celui d'Indochine. Vous écoutez ça à 14-15 ans?
Ah, moi j'adorais Indochine, c'était le Cure français, Indochine.
Votre frère?
C'est vrai.
Vous parlez de votre frère qui était dans cette mouvance-là.
Oui, un groupe qui s'appelait KP4.
Voilà. Ils avaient la coiffure aussi qui va avec.
La coiffure c'est palmier.
C'était pas la période où vous écoutiez.
À la fin du monde arrive. C'est Oberkampf, ça,
bah oui.
Oui.
C'est ce que vous dites dans le livre.
Bah oui, c'était un peu punk. Je sais, j'ai pas l'air comme ça, mais on l'a dit, faut pas se fier aux apparences.
Isabelle Carré, danser le pogo sur les berries.
La mère Noël.
Ça fait partie de votre BO aussi.
Aussi.
Et de la BO du livre.
Du livre. Et on est en 86-87 et là vous avez 15 ans et vous partez de la maison pour vivre d'abord je crois que chez une tante.
Non, d'abord seule.
D'abord seule.
Rue du Mel.
Rue du Mail.
Rue du Mail.
Mail, pardon.
Rue du Mail.
J'ai fait penser à la publicité atroce. Il n'y a que Mail qui Mail. Et ça ne m'allait pas du tout.
C'était dans le deuxième arrondissement.
C'était dans le deuxième arrondissement, enfin, dans le cœur de Paris.
Un truc de bureau, un quartier de bureau, ouais.
Et vous commencez à travailler?
Oui, je fais des photos. D'ailleurs, je suis étonnée qu'on ne me l'ait jamais ressorti. Des photos pour des magazines pour jeunes, quoi, Hockey Podium.
Bah, bougez pas.
On va chercher. Mais qu'est-ce qui. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, voilà, qu'est-ce qui explique qu'à 15 ans, vous vous êtes autorisé à quitter le...
On peut juste dire que c'était peu de temps après cette tentative de suicide que vous aviez faite.
C'était aussi la séparation de mes parents, voilà. Et c'était un peu compliqué. Et
beaucoup de choses en même temps.
Il y avait un côté courage fuyant un peu.
Et en tout cas, c'est à cette époque-là que vous découvrez Romy Schneider, que vous commencez à consigner dans un cahier toutes les répliques, parce qu'il n'y avait pas de magnétoscope.
Pas de magnétoscope à l'époque, en tout cas, moi j'en avais pas, donc j'ai réécrivé tout. C'est peut-être de là que ça me vient, le goût des citations.
Ouais. Et c'est là
pour que rejouer les scènes, en fait.
Pour rejouer les scènes, voilà, pour me rappeler du film, en attendant qu'il repasse au cinéma.
Et puis les cours, Florent, voilà.
Oui, le samedi après-midi avec une prof qui était géniale, qui s'appelait Valérie Nègre, qui s'appelle toujours Valérie Nègre, qui donne des cours et qui a été l'assistante de Patrice Chéreau. Ouais.
Et on l'a déjà évoqué la dernière fois lors de votre dernière venue, c'est Francis Huster qui, au cours Florent...
Vous drague
m'a permis de participer à une émission culte de Jacques Chancel,
Le Grand Échiquier,
je jouais une aveugle. Et c'est là d'ailleurs que Patrick Bruel m'a vu dans cette émission.
Vous drague?
Non.
Pas dragué par Bruel, pas dragué par Huster.
C'est vrai que Jean-Pierre Castel dit... Dans une heure, non, toujours pas.
Et après, c'est une veste par Jean Duclas. Hein.
Vous jouez une jeune aveugle dans la Symphonie Pastorale.
Voilà, Patrick Bruel me voit dans cette scène et m'invite à l'émission de Bernard Pivot. Déjà, d'une mission d'écrivain.
C'est quoi,
alors que je n'avais pas écrit. Apostrophe, ouais. C'était son coup de cœur. Il devait donner comédienne. Coup de cœur artiste.
D'accord.
Et je me suis retrouvée à côté de Virginie Despentes aussi, qui était là, je crois.
C'est un signe.
C'était
un signe, finalement, quelques années après.
Voilà, quelques nombreuses années après.
Mais bon.
Pivot, que nous recevrons avec sa fille dans une quinzaine de jours, si ma mémoire est bonne. Elle est tellement pas bonne que j'ai plus la date. En 92, vous écoutiez.
Oh, le naufrage.
Ce sera mardi. Do you feel the same? Bernard Pivot sera ici le 30 mars, notez-le déjà. Voilà, 30 mars. Mais One de U2.
Ouais.
Vous avez toujours aimé U2 en fait.
Ah,
pas
toujours.
Uniquement
ouais,
dans
j'étais
cette,
à beaucoup
pas
de concerts
92,
de U2. Ouais. Ah oui. Prince aussi. Et David Bowie. Voilà, mes meilleurs concerts.
Et en 92, c'est votre premier grand rôle au cinéma, Isabelle Carré, dans Beau Fixe, un film de Christian Vincent. Mm-hmm. Je crois un film qui proposait quatre actrices. C'était
Elsa Zilberstein, Judith Henry et Stella Larivaz. Ouais.
Et là, vous aviez raconté dans une interview que c'est la première fois que vous vous sentiez dans une forme de concurrence.
Ouais, c'était pas évident parce qu'en fait, on était quatre donc à se partager tout le temps les scènes. Et Christian Vincent, en fait, n'organisait pas vraiment la mise en scène. Et du coup, c'était à nous de bouger et de prendre un peu la place. Moi, j'avais vraiment tendance à me mettre un peu sur le côté. J'avais du mal à m'imposer. C'était pas si simple que ça, ouais. Mais en même temps, c'était un super souvenir. J'ai jamais autant pleuré à la fin d'un tournage. Hein.
Et vous avez été nommée au César du meilleur espoir féminin pour ce film.
Oui, voilà, ça fait partie des nombreuses fois où j'ai été nommée sans l'avoir.
Elle est là. Elle arrive, je la laisse maintenant. Ok, prenez place. Attention, c'est parti. Marina Rollman.
Voici l'humeur de Marina Rollman.
Alors moi, ça faisait quelques semaines que je me disais, en nous voyant tous dans la rue, les transports, au resto, le nez sur notre téléphone, comme ça, qu'on avait l'air un peu demeuré. Et il se trouve que dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai moi-même perdu mon téléphone portable. Alors voilà. Certains y verront un acte manqué, d'autres pointeront là la simple conséquence du fait qu'à ce moment-là, dans mon système vasculaire, il y avait plus de gin tonic que d'hémoglobine. Mais ne finassons pas mesquinement comme ça et concentrons-nous sur les conséquences de cette perte. Puisque ça fait pile maintenant une semaine sans téléphone. Alors qu'est-ce que ça change? Eh ben, on se sent beaucoup mieux. Hein, depuis, je me balade dans la rue avec sur le visage une douce béatitude. Je suis à la fois pleine de sagesse, de douce ironie et de recul face aux petits travers pathétiques mais attendrissants de mes contemporains. Comme les femmes enceintes et les végétariens, je sais que je suis un être meilleur. Mais je ne vous blâme pas. Je ne vous blâme pas. Depuis une semaine, j'ai en permanence le même sourire satisfait que je réservais jusque-là aux gens qui me parlaient d'une émission que j'avais jamais vue et à qui je répondais je sais pas, je connais pas, j'ai pas la télé. Je suis tellement chic et hors du temps, j'ai l'impression d'être Fanny Ardant, c'est incroyable. J'ai envie de m'inviter à dîner, de m'emmener à Capri sur un coup de tête, enfin bref. Depuis que j'ai plus de téléphone, j'ai découvert cette petite communauté que sont les épicuriens technophobes. C'est moins vulgaire que les gens qui, le lendemain d'un marathon, portent encore leur médaille. C'est plus casse-couille que quelqu'un qui a un compost. On est une vraie famille, quoi. Et dans le métro, on se reconnaît les uns les autres au fait qu'on a à la main un livre, voire plus chic, un journal papier payant. Et on se lance des petits sourires entendus comme ça qui reflètent notre conviction d'appartenir à une race supérieure. Et ce snobisme nouvellement acquis me donne envie d'aller plus loin. Tu vois, je me dis, pas de télé, pas de téléphone, mais pourquoi pas plus d'ordinateur? Pourquoi pas arrêter de prendre l'avion? Pourquoi pas devenir maréchal Ferrand? Enfin, en tout cas, ma vie a changé. Je fais plein de trucs nouveaux depuis une semaine. Par exemple, j'ai dit cette phrase qui n'avait pas été prononcée depuis 2011.
Attention.
Dans la rue, à quelqu'un que je ne connaissais pas. Excusez-moi, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. C'est tellement inattendu, les gens bafouillent sur la j'ai pas d'argent, tu demanderais une longue vue ou un mousquet, ce serait pas plus surpris, quoi. Alors, autre aventure, hier, je suis entrée dans une cabine téléphonique. C'est dingue, hein. Non, mais c'est complètement fou.
Il en reste.
Oui, ouais, mais oui, ouais, j'en ai délogé Lionel Jospin qui m'a dit qu'il vivait là depuis 2005. Il est en coloc avec Samuel Le Bihan, ça se passe bien. Alors évidemment, il n'y a pas que du positif dans la déconnexion. Le côté décroissant, soyons dans le moment, c'est comme les légumes oubliés. Parfois, tu te dis, mais peut-être qu'on les avait oubliés pour une bonne raison. Autant une tomate, ça t'évoque Marcello Mastroianni qui fait des trucs sexy, autant un panais. Ça t'évoque Robert Rue qui fête les rameaux. Enfin, tu vois, c'est pas joyeux, quoi. Et donc, c'est indéniable qu'il y a du bon dans le progrès. Mais trop toujours, c'est vrai que depuis que j'ai plus de téléphone, je suis là, quoi. Je vis tout vraiment à fond, quoi. Y compris quand un jeune soprano annonce l'apocalypse de la phrase suivante. Mesdames et messieurs, la musica. Aucun refuge. En mode Mathieu Ricard, je vis chaque minute en pleine conscience. Ça dit, j'ai de la chance, parce qu'une fois sur deux, c'est une dédicace pour moi. Marina, Marina. Privilège rare, hein, qui n'est réservé qu'à moi. Vrai. Et aux jeunes femmes qui s'appellent Cucaracha. Tout ça pour dire m'isoler un petit peu. On les salue d'ailleurs, c'est bientôt la Saint-Cucaracha. Tout ça pour dire m'isoler un petit peu du monde tant que le monde vient à moi. Moi, ça me plaît pas mal. Le seul vrai truc qui m'inquiète dans toute cette histoire, c'est qu'un jour, quelqu'un parle d'une de mes chroniques à une pote et que la personne réponde je sais pas, je connais pas, j'ai pas la radio.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Je sais pas pourquoi, je sens qu'il vous manque quelque chose. Vous savez, ce petit grain de génie, ce condensé de fulgurance. C'est ça, c'est moi. Me voilà.
Ah, le sniper.
Aujourd'hui, 30 janvier, l'actu est un peu sombre. Vous l'avez entendu aux infos, c'est un peu la journée des petits vieux, ces jours de mobilisation dans les EHPAD. Les EHPAD, ces sordides mouroirs où d'indignes enfants placardisent leurs aînés pour s'en débarrasser, vivre la Dolce Vita, ces petits connard égoïste. Eh bien, ça doit cesser tout ça. Oui, ces comportements nombrilistes qui poussent à placer les aïeux sur une voie de délestage qui les amènera doucement mais sûrement vers la mort. Sachez qu'une personne âgée, si elle est entourée, si on lui parle, si on la stimule intellectuellement, eh bien, elle sera heureuse, c'est sûr, mais en plus, elle se sentira bien et sa santé ira en s'améliorant. Regardez ici, on a gardé Nagui avec nous. Il se porte comme un charme. Bon, il continue d'aller aux toilettes à midi et demi alors qu'il urine à midi, mais ça... C'est la nature, il n'a plus de sensation au niveau de la vessie, alors ça sort un peu comme ça veut, mais sinon il est impec, Nagui. Bon, chaque matin, il faut qu'on refasse les présentations de l'équipe, vu qu'il oublie les noms et les visages toutes les 3 heures, mais ça c'est la nature, on ne peut pas lutter. Enfin bon, ça va, on ne passe la montée non plus. Aujourd'hui, dans la bande originale, nous avons même de quoi nous réjouir. Aujourd'hui, Olivier Barou, Jean-Paul Rouff sont nos invités. Super, c'est vrai, mais on s'en fout. On a beaucoup mieux. On a beaucoup mieux pour vous aujourd'hui, amis auditeurs du service public. Aujourd'hui, et en avant-première, nous allons vous dévoiler la bande-annonce des Tuches 4. Ah, vous les avez adorés à Monaco dans les Tuches 1. Vous les avez kiffés en Amérique dans les Tuches 2. Vous les avez respectés à l'Elysée dans les Tuches 3. Vous leur direz merci dans les Tuches 4. Dans les Tuches 4, changement de décor. Jeff Tuche devient président. Oui, mais pas n'importe quel président. Il devient président de Radio France. Changement d'ambiance garanti dans le service public. Son entretien avec le CSA fut aussi original que brillant.
Jeff Tuche, quels sont vos projets pour amener Radio France vers un futur plus riche de contenu avec des moyens financiers plus pauvres?
Bah, écoute, je vais dire, c'est très simple. Alors, ce que je vais faire, pour commencer, je garde que France Inter. Tous les autres radios, je les bazarde sur Internet. Économie 80% par rapport à l'année dernière.
Et vous faites quoi pour France Inter?
Change tout! Déjà, fini les chansons qu'il faut chialer. Fini là, les films partenaires qu'il faut chialer. Fini les animateurs qu'il faut chialer, suivez mon regard. De la rigolade, c'est ça que je veux. Et c'est ça que la France, elle veut aussi.
Quelle sera votre première mesure si vous êtes nommé président de Radio France?
Alors déjà, en premier, je vais rechercher Patrick Cohen.
Ça va être compliqué, il vient de signer sur Europe 1.
Bah bien sûr, c'est pour ça que je veux le reprendre. C'est ce qu'on appelle une opération humanitaire. Je le sais que sur Europa, il est malheureux comme une pièce en mousse. Il a 24 auditeurs. Le pauvre, 24. Lui qui en avait des milliards ici. Il n'y a plus que 24. Faut faire quelque chose.
Bien, ben Patrick Cohen, vous avez d'autres projets?
Plein!
Merci, Jeff Tuche.
Avec plaisir.
Fort d'un programme complet, c'est donc à l'unanimité que Jeff Tuche est nommé président de Radio France. À peine nommé, Jeff se plonge dans la grille des programmes de France Inter.
Bon, alors, Augustin, c'est quoi ton émission?
Mon émission, c'est Boomerang, je reçois ce qui se fait de mieux dans le monde de la culture.
Pourquoi tu fais ça, Augustin?
C'est pour éclairer l'auditeur.
Mais pour s'éclairer, Augustin, l'auditeur, il n'a pas besoin de toi. Il a juste besoin d'une ampoule. Ah, toi, t'es pas une ampoule?
Non.
Bon, bah t'es viré, Augustin. Suivant. Oh non, c'est pas vrai, Nagui.
Oui, c'est vrai.
C'est pas
oui.
possible, oui, qu'est-ce qu'il fout là?
Bah, je suis là.
Bon, mais Nagui, oui. ici, tu travailles ici dans une radio intello?
Bah oui.
Mais mon pauvre, tu dois pas te sentir à ta place. Toi, c'est tout ce qui est le karaoké, tout ça. Non, j'adore ton émission, n'oubliez pas les paroles. J'adore, mais c'est bizarre. Et les gens, tu leur dis, n'oubliez pas les paroles, et ils viennent, ils oublient tout le temps. Dis-là, apprends les paroles avant de venir, enfin. C'est complètement con. Vas-y, je sais pas les paroles, comment ça s'appelle ton émission? N'oubliez pas les paroles. C'est écrit. Bon, bref, revenons à nos moutons.
Pour en venir, si, je me sens très à ma place, tu sais, ici.
Bon, mais tu te sens à ta place?
Bah
tu te sens
ouais,
à ta
bah
place,
ouais,
mon
bah
ami
ouais, bah ouais.
Bon, bah tais-toi, je t'explique. Si tu t'appelles Nagui, t'es une star de la télé. Si t'es une star de la télé, tu portes du maquillage. Si tu portes du maquillage, tu portes des robes. Si tu portes des robes, t'es une fille. Si t'es une fille, tu gagnes 25% moins que les gars. Si tu gagnes moins que les gars, t'es de mauvaise humeur. Si t'es de mauvaise humeur, tu grognes. Si tu grognes, bah tu transpires sous les bras. Si tu transpires sous les bras, tu sens fort. Si tu sens fort, ça excite les chiens. Si les chats sont excités, ils deviennent tes amis. Si t'es ami avec des chats, tu deviens chef de meute. Si t'es chef de meute, t'habites dans la forêt. Si t'habites dans la forêt, y a pas de radio. Et s'il y a pas de radio, t'es au chômage.
Et alors?
Alors t'es viré. Suivant. Oh non, oh non de Dieu, que c'est quoi ça?
Bonjour, je m'appelle André Manoukian.
C'est fou ça. Tu ressembles à une bête sauvage. Et puis tous ces poils qui envahissent ton corps, c'est fantastique. On dirait une loutre qui aurait mis un t-shirt.
Merci, ça me touche beaucoup.
Mais de rien, surtout qu'ici c'est pas un zoo. T'es viré. Suivant.
Salut, je m'appelle Jacques, j'ai plein de projets pour la radio.
D'accord, des projets, ok, mais quoi?
Tous les matins, je fais l'horoscope.
Ah, là tu m'intéresses, mon Jacques, continue.
Oui, je fais l'horoscope parce que l'horoscope c'est indispensable pour savoir comment elle va être ta journée. Si tu vas gagner de l'argent, si tu vas pas crever, si tu vas faire une rencontre qui va déboucher sur un acte sexuel avec consentement mutuel, tout ça quoi.
Mais c'est super, mon ouais. Jacques, j'adore, quoi encore?
Alors je vais organiser des débats sur des techniques de survie.
Bien.
Comment donner la mort à un ennemi dans un parking, dans un supermarché.
Très bonne idée.
Et aussi, comment faire un cocktail avec l'eau de Javel et des Ricards.
Pardon.
Ou comment couper une jambe à un animal sans qu'il s'en aperçoive? L'envie!
C'est exactement ce que je cherche comme programme!
Ouais.
Je t'embauche, mon Jean-Ki!
Putain, tu vas pas le regretter, président! Eh, je fais quoi comme tranche sur le gris?
Écoute, tu vas faire le 7h, 23h!
Est-ce que Jeff Tuch, le nouveau président de Radio France, ce sera lui? Va-t-il réussir sa mission et faire exploser les audiences du service public? C'est bien parti, mais vous saurez tout en allant voir Tuch 4, Jeff Tuch, président de Radio France.
Exactement!
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le meilleur de la bande originale aussi. Mais je vous rassure les amis, nous serons de retour dès lundi 11h et j'aurai l'honneur de vous accueillir en compagnie de Leïla Kadour Boudadi. Nous recevrons Vanessa Guide et Max Boublil pour débuter notre semaine, une semaine légère, une semaine sans Nagui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h dans « Vous les femmes », l'émission préférée de Madonna et Monsieur Gérard Larcher. Oui, oui.